soir, nous allons survoler, voir trois prophètes. Vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophètes, et puis il y a les petits prophètes. En anglais, on dit les major prophets and minor prophets. Et les petits ne sont pas petits parce qu'ils sont moins importants, mais simplement parce que le volume de leurs écrits est moins important. Ils ont écrit des petits textes, ou des textes plus courts que ceux que nous allons voir ce soir, en la personne d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Nous consacrerons, j'y arrive, consacrerons toute une séance au prophète Daniel, qui est à la fois prophétie et historique. Alors, le prophète Ésaïe, ainsi que Jérémie et Ézéchiel, il faut les replacer un peu dans le contexte. En quelle année est-ce que les deux royaumes ont été exilés? Est-ce que quelqu'un se souvient? Si vous aviez une date à donner, on a vu que ce n'était pas aussi noir et blanc, il n'y avait pas une seule date, il y avait eu plusieurs départs en exil. Mais en gros, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait deux, après le royaume de Salomon avait été divisé en deux, entre le royaume d'Israël au nord, avec Samarie pour capitale, et le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Alors, on sait qu'Israël a été emmené en exil, donc le royaume du Nord a été emmené en exil par qui? Par les Assyriens. Par les Assyriens. Et que, en quelle année c'était ça à peu près? C'était en 722 avant Jésus-Christ. Donc on compte à rebours. Et en 722 avant Jésus-Christ, les tribus du Nord ont été emmenées en exil en Assyrie. Les Assyriens, eux, quand ils emmenaient quelqu'un en exil, ils remplaçaient la population par des personnes de chez eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la population du nord d'Israël, c'est ce qu'on a appelé par la suite les Samaritains, c'était plus difficile de trouver sa généalogie, de savoir de quelle tribu on descendait. Maintenant, le royaume du sud, donc ce qu'on appelle Juda, capitale Jérusalem, eux ont été emportés en exil chez qui? À Babylone, en Irak. Et en quelle année c'était ça? 587, grosso modo. Il y a eu des premiers mouvements de départ en exil. Donc si vous devez vous rappeler, c'est très important pour pouvoir situer un peu les choses. 722, le royaume du Nord est emporté en Assyrie, on parle Assyrie en exil, et en 587, c'est le tour de Jérusalem et la Juda qui partent à Babylone. Alors, les prophètes Ésaïe et Jérémie, eux, ce sont des prophètes du royaume du sud, de Juda. Ésaïe, ça va être le premier. Il va être à la même époque un autre prophète qui s'appelle Michée, dont il est question dans les textes. Et Ésaïe, c'est à peu près entre 750 à 680. Ces dates exactes, c'est 760 à 713 avant Jésus-Christ. Et entre la fin de sa vie et le départ du royaume de d'Israël, donc du nord, en Assyrie, il va avoir plusieurs années où il va pouvoir montrer aux gens du sud, voyez ce que j'avais prédit est arrivé pour les gens du nord, si vous ne vous repentez pas, ça va vous arriver aussi à vous. Tournons-nous donc dans le prophète Ésaïe. On va regarder quelques passages. Il y a combien de chapitres dans Ésaïe ? 60 ? 66. Pourquoi ? C'est pas par hasard, en fait. On pourrait dire, tiens, c'est une coïncidence, mais en fait, c'était pour qu'il y ait autant de chapitres qu'il y avait de livres dans la Bible. Vous vous souvenez, quand est-ce qu'on a décidé des versets et des chapitres dans la Bible ? Les chapitres, ça a été seulement au XIIe siècle, XIIIe siècle, et les versets, ça a été au XVe siècle, où on a décidé, pour se repérer dans le texte, au lieu de dire, il y a un bon passage dans Ésaïe, c'est après l'histoire, tu sais, du... Non, on peut dire, pof, c'est Ésaïe 7:27. Ils ont donc divisé, à partir du nombre de chapitres de livres qui avaient été adoptés dans le canon de la Bible, ils ont découpé en 66 chapitres, qui ont une certaine unité par eux-mêmes, mais encore une fois, ce ne sont pas des choses inspirées. Il y a des fois où on aurait pu prendre quelques versets avant, notamment par exemple un chapitre célèbre, c'est le chapitre 53. En fait, on aurait pu le faire commencer à la fin du chapitre 52, parce qu'il y a des versets qui s'appliquent au thème. On en reparlera. Et puis, il y a deux grandes parties dans le livre d'Ésaïe. Il y a d'abord des prophéties qui concernent Juda et les nations, c'est-à-dire les nations païennes. Et ça, ce sont les chapitres 1 à 36. Et puis, il y a une petite parenthèse historique. Donc, ce n'est plus vraiment des prophéties, mais c'est une description de ce qui s'est passé à l'époque. Et ça, c'est les chapitres 36 à 39. Et puis la deuxième partie, donc les chapitres 40 à 66, ce sont des prophéties de réconfort pour Israël. Ésaïe prophétise la délivrance d'Israël, il parle de son libérateur et du rétablissement d'Israël, il parle même du royaume messianique, du royaume du millénaire qui sera sur la terre. Et donc là aussi, on voit que la première partie, les chapitres 1 à 39, il y en a autant qu'il y a de livres dans l'Ancien Testament. Et combien il y a de livres dans le Nouveau Testament ? Il y en a, dans le Nouveau Testament, il y en a 27, hein, et 39 dans l'Ancien Testament, pour un total de 66. Ça, c'est des... Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains auteurs ont essayé. Il y a une époque, notamment ça a été au siècle, au 19e siècle, ce qu'on a appelé la haute critique, qui a commencé en Allemagne, où les gens ont commencé à mettre en question la Bible en décidant ça, oui, non, ça, c'est pas vraiment inspiré, ça, c'est inspiré. C'est ce qu'on appelle la haute critique de la Bible, qui a fait beaucoup de tort à la foi, parce que elle a. Les hommes se sont mis à juger la Bible au lieu d'être jugés par la Bible. Et ces auteurs ont dit qu'en fait, il y avait deux auteurs d'Ésaïe. Parce que, justement, le thème était différent. Il y avait des changements un peu de vocabulaire. Et il y a eu toute une controverse sur ces deux livres d'Ésaïe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui ne tient pas devant les faits. Et même, le Nouveau Testament le réfute. Puisque Jésus, parlant du prophète Ésaïe, si vous le regardez dans Jean 12, Jean 12, 37, il parlait de l'incrédulité des foules. C'est l'apôtre Jean qui disait « Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leur cœur, leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il cite le prophète Ésaïe, mais il cite dans les deux passages, dans les deux divisions, qui certains disent être de deux différents auteurs, alors que Jésus en parle dans la même foulée, au verset 38, il dit 39. Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe a dit encore, c'est le même Ésaïe, c'est pas un autre Ésaïe, pas un autre auteur. Et au verset 41, il dit, c'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc, vous tomberez peut-être sur des livres qui parlent du premier Ésaïe, du deuxième Ésaïe, mais il n'y a aucune fondation biblique pour cette division artificielle. Ésaïe est donc arrivé au moment où il prédisait un jugement sur Israël, parce que Israël n'était pas proche du Seigneur. Il avait la prophétie que Jérusalem et le royaume d'Israël allaient être envoyés en exil. Il a vécu sous plusieurs rois, dont un roi qui s'appelait le roi Ozias. Et on va juste regarder un peu le chapitre 6, qui est l'annonce de sa vocation, de son appel au service de Dieu. Il est dit l'année de la mort du roi, chapitre 6, verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, c'est page 674, dans la Bible à la colombe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien, regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné, et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Donc on voit là plusieurs choses. On voit d'abord la majesté de Dieu dans son temple, dans son trône. On voit la réaction de l'homme face à la perfection divine. Et je crois que tous, quand on s'approche de la sainteté du Seigneur, on voit la noirceur de notre cœur, on voit notre péché, et c'est bon devant Dieu de dire « je suis impur, je ne suis pas digne ». C'est un ange, un des séraphins, qui touche sa bouche avec une des symboles de purification, avec une des braises de l'autel, peut-être l'autel des parfums, pour dire « ton péché a été recouvert ». Et puis cet appel du Seigneur qui se demande devant lui « qui c'est qui je vais bien pouvoir envoyer. Et cette disponibilité d'Ésaïe qui dit, me voici, envoie-moi. Et tous dans notre vie, le Seigneur nous appelle. Alors ce n'est pas nécessairement pour partir missionnaire très loin, ce n'est pas nécessairement pour enseigner la Bible, pour être pasteur, pour être dans le ministère à temps plein. Mais le Seigneur se dit, qui c'est que je vais pouvoir utiliser ? Les yeux du Seigneur parcourent la terre pour chercher quelqu'un qui, pour se montrer fort dans la vie de cette personne. Et Ésaïe, avec humilité, a dit, je suis prêt à te servir, Seigneur. Mais le Seigneur a ajouté de cette prescription un peu étrange de parler de telle façon que le peuple d'Israël ne comprenne pas à temps et qu'il reçoive la punition que son péché mérite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours un peu du mal à comprendre. Mais il y a une sainte colère qui doit suivre son cours, que ce soit avec les peuples, comme Ésaïe et plutôt avec Israël, ou que ce soit avec les individus comme nous. Et le Seigneur, même si Israël a été infidèle, le Seigneur est fidèle parce que, non pas parce qu'Israël le mérite, mais parce que le Seigneur s'est engagé à les bénir par alliance, par contrat officiel, unilatéral. Et donc, il va les bénir. Et il y a toujours c'est un thème qui revient souvent dans les prophètes, et notamment chez Ésaïe, ce reste d'Israël. Et là, il parle d'un dixième des habitants, peut-être, qui donnera une sainte descendance. Encore une fois, le Seigneur trouve toujours des hommes à qui il peut confier son œuvre, le travail pour son royaume, sachant que c'est lui qui les anime, c'est lui qui leur donne la force, c'est lui qui ouvre les portes. Mais s'il ne peut pas m'utiliser, il utilisera quelqu'un d'autre. Sa souche donnera une sainte descendance. Les prophéties, on a dit, c'est souvent à plusieurs niveaux. Il y a une prophétie immédiate pour quelque chose qui se passait à l'époque, et puis quelque chose qui peut se passer beaucoup plus longtemps, loin dans l'histoire, et des fois même à la fin des temps. Et au chapitre 7 et 8 et 9, il y a une situation où c'est le roi Ahaz, qui était le roi de Juda. Il y avait un roi de Syrie, Retsin, qui était allié avec le roi d'Israël pour se battre contre le royaume de Ahaz, le royaume de Jérusalem. Et à ce moment-là, l'Éternel a dit à Ésaïe d'aller dire à ce roi Ahaz qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne pourrait pas lui faire de mal. Mais cet homme Ahaz a craint pour son royaume, et il a cherché à s'allier avec l'Assyrie. Et l'Éternel a dit à Ahaz, le roi, demande en ta faveur un signe, verset 11 du chapitre 7, un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le dans les lieux bas, dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. Et c'est là que le roi Ahaz dit, non, je ne veux pas te déranger, Seigneur, avec un signe, alors que le Seigneur lui demandait de demander un signe, lui disait de lui demander un signe. Et c'est là qu'il y a ce fameux prophétie, au chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvante sera abandonné. Donc là, on pense que c'était un premier enfant qui devait naître, ça devait être à l'époque d'Ésaïe. On pense que c'est peut-être un fils qui lui a été donné, sa femme a eu un fils, mais on sait aussi que ce passage, c'est une application messianique, c'est l'annonce de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. La jeune fille était une jeune fille vierge. Certains disent que, en fait, le mot utilisé, ça veut dire simplement jeune fille, mais la Bible traduite en grec, l'Ancien Testament traduit en grec, utilise un mot qui veut dire en grec absolument jeune fille vierge. Et ce ne serait pas un grand signe qu'une jeune fille donne naissance à un enfant. Par contre, une jeune fille vierge, c'était un grand signe. Donc ça, c'était un des premiers messages messianiques. Ésaïe est on l'appelle des fois le prophète messianique parce qu'il a annoncé la venue du Messie. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 9, il y a ce passage célèbre aussi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et ça, bien sûr, c'est encore une prophétie s'appliquant à Jésus. Donc il y a plusieurs prophéties très, très spécifiques sur Jésus-Christ qu'on retrouve sur les cartes postales de Noël, notamment ces passages, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 6 et suivant, 9, 5 et 6. Il était à la cour du roi. En fait, on pense qu'il était c'était un peu un noble. Et il a bénéficié d'une éducation raffinée, un peu comme on le verra pour le prophète Daniel, qui va être à la cour du roi d'Assyrie, de Babylone, pardon. Selon la tradition, il a mal terminé. Dans Hébreux 11, 37, il est question des prophètes qu'on a sciés en deux. Et il y a une histoire qui est rapportée dans la littérature non biblique qui dit en fait qu'il avait été scié en deux dans un tronc d'arbre où il s'était caché pour échapper à des persécutions. Donc c'était un prophète qui a beaucoup souffert. Il parle du passé, il parle de la création du monde, il parle à la fin de son livre, il parle de l'avenir, de la nouvelle terre. Il avait un grand cœur pour Jérusalem, qu'il nomme sous plus de 30 noms différents. Ça serait une bonne étude à faire, tous les noms par lesquels il appelle Jérusalem. Il s'adresse aussi aux autres pays païens qui entouraient Jérusalem. Au chapitre 13 et 14, il est question d'un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit de la chute, de la prophétie contre Babylone, contre le roi de Babylone. En fait, on en reparlera en regardant Ézéchiel 28. Ce roi de Babylone, on voit aussi que il explique l'apparition du péché dans la race humaine, parce qu'il est aussi une préfiguration ou une représentation de Satan lui-même. On peut lire maintenant chapitre 14, à partir du verset 12. On va commencer au verset 11, parce qu'il parle de la fierté. « Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. » C'était un ange qui menait la louange. « Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous sont couchés avec honneur, chacun dans sa maison, mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rameau horrible, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse comme un cadavre piétiné, etc. Et il y a la partie historique d'un roi de Babylone qui a été ainsi traité, mais on voit que ça dépasse le cadre d'un petit roi de Babylone, que c'est en fait un personnage beaucoup plus important qui avait une influence sur le monde, quelqu'un qui ébranlait les royaumes, et c'est confirmé par Ézéchiel 28, il s'agit de Satan lui-même. Il y a deux personnages importants, donc on a déjà parlé du Messie, mais on a vu aussi qu'il y avait l'empereur Cyrus, on en a parlé la dernière fois. Ésaïe en avait parlé 150 ans avant sa naissance. Et on peut imaginer que lorsque Cyrus a lu les passages le concernant, c'est pour ça qu'il a été touché, qu'il a écrit un traité, ou plutôt il a écrit un décret permettant aux exilés de retourner dans leur pays. Alors, dans ce passage d'Ésaïe, Jésus, ou disons le Messie, il y a ce qu'on appelle le serviteur. Les Israélites, plutôt les Juifs orthodoxes, disent qu'en fait ce serviteur, c'est le pays tout entier des Juifs, Israël. Mais on verra qu'il y a des passages qui sont vraiment très personnels et qui désignent le Messie, comme les passages qu'on a lus dans Ésaïe 9:6. Et il apparaît à la fois comme un serviteur qui va souffrir et comme un Messie triomphant dans les différents passages d'Ésaïe et des autres prophètes. Comme je l'explique quand on en a l'occasion, nous on a le bénéfice, on a le recul historique pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est vrai que pour les Juifs, même s'ils avaient ces prophéties d'un serviteur, d'un oint par Dieu qui devait venir servir et souffrir, eux, ça ne les intéressait pas. À l'époque de Jésus, ce qui les intéressait, c'était de voir un Messie triomphant qui venait les libérer de l'occupation romaine. Et c'est pour ça qu'ils avaient tellement de mal à comprendre comment le Messie qu'ils attendaient pouvait être cette personne traitée comme un criminel sur une croix cruelle, qui était là traitée comme le plus bas des hommes. Et toujours cette vision prophétique, un peu comme la vision quand on regarde un paysage avec un zoom, on a l'impression que les montagnes sont dans Nice et que la mer est dans Nice, tout est rapproché. Les prophètes avaient un peu cette vision comprimée du futur et ils décrivent des fois des choses qu'ils voient au premier plan comme des choses qu'ils voient au second plan. Et maintenant nous on comprend parce qu'on a le bénéfice du recul historique encore de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais pour eux, ils avaient vraiment du mal, et d'autant qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'un Messie qui allait souffrir. Ils voulaient la victoire. Et en tant qu'homme, on a souvent tendance à faire ça. On veut que la bonne nouvelle. On cherche du travail, on veut savoir le salaire, on ne cherche pas à savoir les devoirs qu'on va avoir, le travail qu'on va devoir produire. On est plus intéressé par les bonnes choses qui vont venir de notre côté. Donc, Ésaïe, qu'est-ce qu'on peut dire encore brièvement sur Ésaïe? On pourrait passer une année à étudier Ésaïe, j'espère arriver bientôt. C'est un des auteurs les plus cités dans le Nouveau Testament, après les psaumes. On a dit que Jésus citait le plus souvent quel livre? Deutéronome, hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Mais le livre des psaumes vient en second dans l'ensemble du Nouveau Testament. Et le livre d'Ésaïe est cité énormément aussi. Et c'est une bénédiction parce que ça nous permet de comprendre davantage. Encore une fois, c'est la Bible qui doit guider notre compréhension de la Bible. Et le Nouveau Testament nous montre qu'en fait, Emmanuel, lorsque les passages sont recités pour la naissance de Jésus, ça nous permet d'avoir l'interprétation inspirée par le Saint-Esprit, donc la bonne interprétation. Et lorsque des gens vous proposent des interprétations un peu douteuses, revenez toujours à la Bible pour savoir s'il y a des bases bibliques pour telle ou telle interprétation. Le passage, un des passages les plus beaux de l'Ancien Testament, c'est peut-être ce passage d'Ésaïe 53, qui commence, comme je l'ai dit, à la fin du chapitre 52, verset 13. « Voici mon serviteur », page 722, chapitre 52, verset 13. « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'est plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Les prophéties sont souvent au passé. On décrit un événement futur comme s'il est déjà arrivé. Et là, c'est en fait une description de Jésus sacrifié sur la croix, qui est battu. Son aspect n'est plus celui d'un homme. Il était tellement meurtri par ses coups, par la souffrance, qu'il n'a plus l'aspect d'un homme. Son apparence n'est plus celle d'un des fils d'Adam. Verset 1 du chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'était levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Jésus était un homme d'apparence ordinaire. Ce n'était pas un Suédois musclé comme Rambo. Il devait être costaud parce que c'était un charpentier. Mais on a souvent des images un peu d'Épinal de Jésus. C'était quelqu'un qu'on n'aurait pas remarqué pour son apparence physique. Il a été méprisé, abandonné des hommes, verset 3, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants. À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Justification par la foi. Et se chargera de leurs fautes, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Là, on a tout l'évangile. Jésus qui s'est sacrifié pour nos péchés, qui a pris la punition qui nous revenait, qui s'est offert lui-même en sacrifice et qui va permettre à un grand nombre d'être justifiés, d'être déclarés justes par Dieu. Et dans ce passage, on voit tout le contraste entre lui et nous. Nous l'avons méprisé, lui a souffert en silence, le châtiment est tombé sur lui, mais ce châtiment nous donne la paix. On voit qu'en fait, ce n'est pas un serviteur collectif, c'est pas le peuple d'Israël, c'est une personne vraiment dont il est question ici dans ce serviteur, dans tout le passage d'Ésaïe. On me dit, j'ai jamais recherché, qu'en fait, si on étudie ce passage qui est vraiment un passage, un sommet de la Bible, hein, c'est comparable à Romains 8, ça. C'est vraiment de la Bible concentrée, de la bonne nouvelle concentrée, qu'on peut retrouver les noms des personnes qui ont été présentes lors de la crucifixion de Jésus. J'ai pas eu le texte l'indiquant, et voir comment, en prenant une série de toutes les quatre lettres ou toutes les sept lettres, on trouve les noms, et certains trouvent les noms des 40 personnes qui ont assisté à la crucifixion de Jésus. Alors je vous laisse faire la recherche vous-même. C'est pas une clé, mais encore une fois, la Bible n'est pas, rien n'est fait par hasard dans la Bible. Tout a une raison d'être bien précise. Dans l'évangile de Luc, vous vous souvenez qu'au chapitre 4, il est question de Jésus qui entre dans une synagogue. À Nazareth, et à partir du chapitre, verset 16 du chapitre 4 de Luc, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et on sait que ça va causer les chefs de religieux de l'époque, ça va les remplir de fureur parce qu'ils réalisent qu'en fait il dit qu'il est ce serviteur, ce messie qu'ils attendent. Mais je voulais vous faire remarquer que le passage qu'il cite, c'est Ésaïe 61. Et par rapport au texte d'Ésaïe, il va laisser de côté, on va lire simplement les deux premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Et c'est là qu'il s'arrête dans Luc. Mais dans Ésaïe, le prophète continue, le serviteur continue en disant « Pour proclamer non seulement une année favorable de la part de l'Éternel, mais un jour de vengeance de notre Dieu. » Et là encore, c'est un bon exemple de cette vision comprimée. Il y a non seulement l'année favorable de la part de l'Éternel, mais il va y avoir aussi le jour de la vengeance. Et ça, ce sont deux moments séparés dans l'histoire. C'est d'abord le Messie qui vient nous sauver, et ça va être le Messie qui va remettre l'ordre sur la terre, qui va régner sur la terre avec une barre de fer, comme il est dit dans plusieurs passages, notamment l'Apocalypse. C'est en ce jour, au temps de Jésus sur la terre, en Galilée, il disait « ça a été accompli maintenant en votre présence ». Par contre, le jour de vengeance de notre Dieu, ça va être le jour de l'Éternel à la fin des temps. Et là, encore une fois, on voit que les prophéties, il faut les regarder en jouant sur la profondeur de vue pour bien comprendre ce qui est dit. Un autre grand passage, en fait, il y a beaucoup de passages bien connus et qui sont des encouragements pour tous les chrétiens de l'histoire. Un de mes passages favoris, c'est Ésaïe 55. Et Ésaïe 55, c'est le sermon évangélistique, c'est l'appel de l'Éternel qui nous offre le salut. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Et ça continue, mais c'est cet appel de Dieu, de tout son cœur, qui veut que tous les hommes viennent à lui, et il leur conseille de réaliser que bien souvent, ce qu'ils recherchent dans la vie, ce sont des choses vaines. C'est des choses qui ne rassasient pas. Et on le voit dans tous les types d'addictions, de recherches, des idoles que les gens se mettent à servir dans leur vie. Et à la fin, il n'y a que du vide. Ce qui se vend n'est que du vent. Comme j'ai chanté tout à l'heure. Toute la vanité des choses qui sont en dehors de Dieu. Et c'est ce fameux passage, Ésaïe 55, qui dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. C'est à partir du chapitre 10, du verset 10 du chapitre 55. Donc des passages sublimes, qui se termine par la gloire de la nouvelle Jérusalem, le jugement des méchants et la fin des temps. Mais on doit passer au second grand prophète de cette époque, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, on l'appelle, Ésaïe était le prophète messianique, Jérémie, on l'appelle des fois le prophète qui pleure. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de compassion. Et il a eu un ministère très difficile parce qu'il devait essayer de convaincre les habitants de Jérusalem qu'en fait ils allaient périr comme avait péri le royaume du Nord. Et lorsqu'on annonce une telle vérité, bien sûr, on est très mal reçu. Donc c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert de par le rejet de ce qu'il devait annoncer à ses contemporains. Et quelque part, toute proportion gardée, c'est vrai que nous aussi, on a tendance à annoncer la bonne nouvelle, mais on peut aussi annoncer le fait que si on ne vient pas à Jésus, il va y avoir des conséquences très, très graves. Il était célèbre pour être un jeune homme que Dieu avait choisi. Et on est terrible. Chaque fois que le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on cherche des excuses. Et c'est un chapitre bien connu, un passage bien connu. Il avait été choisi avant sa naissance, chapitre 1, verset 5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Et aussitôt, « Ah, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler. » car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et l'Éternel touche sa bouche, et lui met ses paroles dans sa bouche. Il l'établit sur les nations et les royaumes, pour annoncer les prophéties de l'Éternel. On se souvient de Moïse qui disait, mais moi je ne sais pas parler, il y a Aaron, là il parle mieux, là il peut pas. Bon, tu veux Aaron, tu vas avoir Aaron. Et nous sommes, si souvent nous sommes comme ça, on dit, je ne peux pas le faire, ou je ne suis pas équipé, non, je ne peux pas. Et si on a la conviction que c'est quelque chose que le Seigneur nous demande, alors à ce moment-là, il faut surtout pas hésiter et lui faire confiance. Alors on a vu avec Nick qu'il fallait apprendre un peu à reconnaître la voix de Dieu, comme on peut apprendre à reconnaître le bruit des pièces de monnaie en y prêtant un peu attention, si on prête un peu attention à ce que dit la parole de Dieu, on peut savoir si une idée est en harmonie avec tout le conseil de sa parole ou si c'est une idée bizarre et saugrenue qui vient de moi-même, de ma chair, ou même peut-être de l'ennemi. Mais on se trouve toujours des excuses. On est trop jeune, on est trop vieux, on est trop fatigué, on ne parle pas assez bien. Je ne connais pas assez bien le français pour faire du témoignage sur la promenade des Anglais. Alors qu'il faut peut-être mieux parler anglais sur la promenade des Anglais, en fait. Mais... Lui, il prophétise pendant 50 ans, depuis la 13e année du roi Josias. Josias, qui était un bon roi, mais il va mourir en 580 avant Jésus-Christ. Il va connaître, à la fin de sa vie, il va vivre à la même période que Ézéchiel et Daniel. Et Daniel va connaître les prophéties de Jérémie. C'est comme ça qu'il va savoir que il est temps pour la délivrance, parce que Jérémie va prophétiser que Juda va être envoyé en captivité pour 70 ans. Il a utilisé un langage très, très symbolique, comme un peu comme Jésus qui a utilisé les paraboles. Jérémie, lui, se retrouvait dans des situations qui étaient très, très illustratives, très graphiques pour montrer des vérités spirituelles. On a étudié il y a quelques années avec le pasteur Pat Lazovitch l'imagerie du potier qui est en train de faire le vase et qui doit être bien malléable sous les mains du potier, sinon le potier doit le jeter et recommencer. Il y a la captivité qui est prédite par le signe d'un caleçon, d'une ceinture de lin qu'il met dans la terre et qu'il doit ressortir, qui était plus bon à rien. Mais le Seigneur l'a amené à faire des choses très, très graphiques pour ses contemporains. Et ça encore, ça nous rappelle comment communiquer de façon effective en utilisant des images, des choses qui parlent aux gens et non pas seulement des raisonnements théoriques un peu abstraits. Ça doit être un encouragement lorsqu'on a utilisé un langage imagé. Jérémie essayait d'amener son peuple à la repentance pour éviter que la captivité n'arrive. On pense qu'il avait un secrétaire, parce que les différents épisodes ne sont pas toujours dans un ordre chronologique si on recoupe avec d'autres livres historiques. Et on pense qu'il avait un dénommé Baruch comme secrétaire qui peut-être a recueilli certaines de ces histoires pour les écrire. Peut-être c'est lui qui a été l'instrument pour enregistrer ces histoires. Jérémie présente Christ comme berger. Il parle beaucoup des bergers, des mauvais bergers justement, qui ne prennent pas soin d'Israël. Il en parle comme du germe de David. Il annonce aussi la nouvelle alliance. Il y a un passage si vous n'avez pas lu encore ces prophètes, je vous invite vraiment à, peut-être plutôt que de lire au hasard, si vous n'avez pas un plan de lecture, prenez un prophète que vous ne connaissez pas comme ça et commencez à le lire. Ils peuvent des fois vous parler beaucoup. Je sais que lorsque je me sentais appelé à venir en France, j'étais encouragé par le verset 29 du chapitre 23. Pour moi, je voyais la France et je vois toujours la France comme une terre difficile à percer pour l'Évangile. Il y a beaucoup d'athéisme, il y a beaucoup de rationalisme, à côté d'un tas d'ésotérisme, mais il y a une résistance presque satanique à la parole de Dieu. Et ce verset 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire ainsi parle l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Et pour moi, ça m'a donné confiance qu'en fait, en enseignant la parole de Dieu, on pouvait faire confiance à Dieu pour l'utiliser comme un marteau piqueur, pour faire éclater les cœurs, la dureté des cœurs dans notre pays, dans notre monde soi-disant post-chrétien en Europe et notamment en France. Un passage très beau, c'est aussi dans Jérémie 31 à 34. Voici que les jours viennent, à partir de 31-31, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc les deux parties réunies, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ça continue, c'est un très beau passage, mais Dieu fait fi de l'alliance basée sur les 10 commandements qui ont été brisés lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Maintenant, il va mettre la loi sur leur cœur. Et ça, cette expression, la nouvelle alliance, c'est ce qui nous a donné l'expression du Nouveau Testament. Toute l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de la venue de l'Esprit-Saint dans nos cœurs, c'est déjà dans Jérémie 31. Alors d'abord, c'est pour les Juifs. C'est ce que dit Paul dans Romains 1:16. D'abord pour je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, d'abord du Juif, puis aussi des non-Juifs, du Grec, il dit. On a plusieurs passages sur la destruction de Babylone, chapitres 50 et 51. Là aussi, il y a des prophéties contre les peuples que Dieu utilise pour châtier les Juifs, Israël et Juda. C'est un peu comme Dieu se sert de bâton pour corriger son peuple, mais après il va aussi casser les bâtons. Et encore une fois, s'il prend tant de soin d'Israël, c'est pas parce qu'Israël est spécial ou le mérite par des vertus propres à eux. Non, c'est parce que lui s'est engagé. C'est la parole, c'est la fidélité de Dieu qui accomplit ses promesses. Donc, juste pour votre gouverne, il y a des prophéties d'abord avant la déportation de Judas, ça c'est jusqu'au chapitre 33. Chapitre 34 à 46, c'est sur Judas, des prophéties sur Judas pendant le siège de Jérusalem. Et puis des prophéties de 46 à 51 sur les nations après la chute de Jérusalem. Et puis finalement, la prise de Jérusalem, ça c'est au chapitre 52. Et puis Jérémie, on a dit que c'était le prophète qui pleurait, il a écrit un autre livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, sur laquelle là aussi il se lamente. C'était un patriote, un fervent juif qui avait tellement de douleur à voir sa ville Jérusalem, à voir son peuple brisé par la colère de l'Éternel. Il souffrait, mais en même temps il avait la conviction de la grâce de Dieu. Et un texte que l'on connaît bien, c'est que chapitre 3 verset 22, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions sont renouvelées, ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ça c'est la grâce de Dieu qui s'exprimait et que Jérémie annonçait pour Israël et pour Juda, pour le peuple juif. Et donc, il va, là aussi, il annonce que la nation va être corrigée, punie, mais pas pour être détruite, mais pour être un jour restaurée. On va rapidement dire quelques mots sur Ézéchiel. Lui, il a été exilé de Judée en Babylone pendant la deuxième déportation. On avait vu ça dans 2 Rois 24. Il va parler aux captifs, donc, sur les rives du fleuve Kébar. Il doit remplir ce rôle de prophète, encore une fois, devant un peuple qui ne croit plus trop, on va y arriver, en Dieu, qui est ingrat. Et il est rejeté aussi par son peuple. Il a une très belle vision au chapitre 1 de la gloire de Dieu. On n'a pas trop le temps de s'y pencher. Mais on voit aussi une très belle description qui nous rappelle certains de ces passages comme Ésaïe 6 ou l'Apocalypse 1 où Jean nous décrit le trône de Dieu. On voit aussi les anges, les chérubins qui ont une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf, une face d'aigle. On retrouve des thèmes, ça c'était les étendards des tribus d'Israël lorsqu'ils faisaient le campement dans le désert autour du tabernacle. Il y en est question aussi dans l'Apocalypse, où on trouve, encore une fois, quand on lit tout le texte et qu'on s'en imprègne, on voit des choses qui se mettent en place et qui fortifient notre compréhension globale de toute chose dans la Bible. Il y a, lui aussi, Dieu lui demande de faire des actions prophétiques. Et c'est un langage symbolique. Ça peut être des raisins verts, ça peut être des ossements, on va en parler un petit peu, des oiseaux de proie qui dévorent les envahisseurs. Mais au chapitre 4, versets 5 et 6, Dieu lui demande de se coucher sur son côté gauche, à partir du verset 4, Ézéchiel 4:4. Toi, couche-toi sur le côté gauche, mais y la faute de la maison d'Israël. Tu porteras leur faute autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute, 390 jours. Tu porteras ainsi la faute d'Israël. Quand tu auras aussi ainsi achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et c'est très intéressant de lire ces histoires parce qu'on se demande où Dieu va en venir avec ces histoires. Mais on voit souvent dans ces 390 et 430 années, 430 années de... où Israël ne s'est pas comporté comme Dieu l'a voulu, hein, puisque c'est pour chaque fois qu'ils se sont détournés de la face de Dieu, il y a un jour pour une année pour 304. Un jour correspond à une année de désobéissance. Alors quelqu'un faisait remarquer qu'en fait, la captivité à Babylone, ça a duré 70 ans, et que quand on retire ces 470 ans des 430 années de désobéissance, il reste 360 ans qui ne sont pas vraiment pris en compte. À quoi correspondent ces 360 ans où Dieu a désobéi et maintenant, plutôt Israël a le peuple a désobéi à Dieu et Dieu le punit. Il y a un passage dans Lévitique 26. Lévitique 26. Où à quatre reprises Dieu dit que si ils ne l'écoutent pas, leur peine va être multipliée par 7. Lévitique 26, chapitre 18, pardon, chapitre 18, 26, verset 18. Alors avant, il venait de dire, si je tournais ma face contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Si malgré cela, verset 18, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Et puis un peu plus loin, au verset 24, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Pour vos péchés. Verset 24, je vous frapperai 21, 24 et 28, 4 reprises. Si vous, malgré ma punition, vous n'écoutez pas, je multiplierai par 7 fois plus que vos péchés. Et quelqu'un disait donc, on prend ces 360 années non prises en compte par la captivité à Babylone, et on arrive à un total de 2520 années. Alors il y a des corrections à faire pour avec notre calendrier grégorien, parce que l'année à l'époque c'était l'année de 360 jours, etc. Mais si on prend ces 2520 années et qu'on les ajoute au début de la captivité, la première captivité de Babylone, on arrive à la date, au jour près, au 14 mai 1948. 14 mai 1948, c'est le jour où Ben Gourion a déclaré l'existence, l'indépendance de l'État d'Israël. Première nation à se réunir en tant que nation, État-nation, après des siècles de dispersion à toute la surface de la terre. Il y a aussi ce qu'on appelle la désolation de Jérusalem, qui est différente de la captivité, parce que lorsqu'il y avait la captivité, Jérusalem n'a pas été détruite tout de suite, puisque il y avait encore des gens qui restaient là. Mais il y a un moment, lorsque on l'a vu ça lorsqu'on a fait les livres historiques, si on ajoute ces 2520 années au début de la destruction de Jérusalem, on arrive au 7 juin 1967. Vous êtes trop jeunes pour la plupart pour vous rappeler ce que le 7 juin 1967, c'était l'entrée des troupes israéliennes dans la ville de Jérusalem reconquise. Et là encore une fois, c'est pas pour faire du sensationnel, mais je crois que c'est vraiment dans la Bible qu'on a des prophéties très exactes. Alors c'est plus facile bien sûr de retrouver quand on a les dates et qu'on dit, si on ajoute ces dates, encore une fois, je ne suis pas pour... certains font vraiment du sensationnel en cherchant ces choses, en cherchant des chiffres cachés dans la Bible, etc. Mais encore une fois, si Dieu est Dieu, qu'il est en dehors du temps, les prophéties, c'est pour lui une façon de nous signaler qu'il est... C'est lui qui écrit ce livre. Et personne ne pouvait faire ses calculs à l'avance, savoir que le 7 juin 1967, Jérusalem serait libérée par les troupes israéliennes après la guerre des 6 jours. Il y a des choses absolument fantastiques. Ézéchiel, de quoi il parle rapidement? Il parle du Messie, il présente le Christ comme le germe, comme la cime d'un cèdre planté en terre. Il est le vrai berger. Il parle aussi, comme Jérémie, il parle beaucoup des bergers, parce qu'il y avait beaucoup de chefs religieux qui n'étaient pas des bons bergers. Et le thème, c'est que ils sauront que je suis Dieu. Ils vont reconnaître qu'il est Dieu. Il y a un autre passage, on a dit Ézéchiel 28. On va essayer de le faire avant que la cassette ne s'arrête. Ézéchiel 28, qui est aussi une description de Satan, qui veut... Là, est pris comme le roi de Tyr. Silence. On va lire. Le roi de Tyr, à partir du verset 11, chapitre 28, verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Toujours encore cette beauté de Satan. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Donc on voit que s'il s'agit vraiment d'un ange, ce n'est pas simplement le roi de Tyr. « Du milieu des pierres ardentes, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. » Alors ça, on peut faire le rapprochement avec des passages de l'Apocalypse. Mais là aussi, entre Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, rappelez-vous, 14 deux fois, ça fait 28, on a deux passages qui nous montrent comment Satan est tombé dans le péché. Encore une fois, c'est l'orgueil. C'était le désir de se faire aussi grand que Dieu. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, on en a parlé samedi matin, la tentation de Dieu dans le désert. Satan a essayé de faire appel à la convoitise des yeux en lui montrant les royaumes. Il a fait appel à la convoitise de la chair en lui disant « Mais si tu as faim, tourne ces pierres en bonne baguette bien croustillante. » Et puis à l'orgueil de la vie en lui disant « Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de ces rochers et le Seigneur te enverra des anges pour te retenir. » Et en fait, on voit que Satan, lui, son désir, c'était de se faire adorer. Il avait dit à Dieu, tous ces royaumes m'appartiennent, montrant les royaumes de la terre. Il te suffit de m'adorer, ils seront à toi. Et ça, c'était le but de Satan, c'est de se faire adorer. Et c'est cet orgueil, ce désir d'être aussi grand que Dieu qui a été la cause de sa perte. Voilà, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, Dieu voulant, on parlera de Daniel. Je voulais juste dire un mot d'une autre prophétie qui est la prophétie de Gog et Magog, qui est au chapitre 38 et 39. Qui pour beaucoup est une prophétie de la bataille qui va se passer à la fin des temps. Gog et Magog, c'est des noms un peu bizarres, et lorsqu'on voit justement dans Ézéchiel 38 et 39, il y a d'autres noms de pays qui sont mentionnés, le prince de Roche, de Méchec, de Toubal, il est question de Togarma, de... Et on se dit, mais pourquoi est-ce que la Bible utilise des noms si bizarres, d'Éphraïm pour parler de l'Égypte ? En fait, c'est parce que les noms des lieux géographiques varient beaucoup avec les hommes. Saint-Pétersbourg s'est appelé Petrograd, et puis Leningrad, et maintenant s'appelle Saint-Pétersbourg. Ça change sans arrêt suivant les régimes politiques. Mais là, souvent les noms de lieux dans la Bible et dans les prophéties, ce sont les noms des premiers chefs de tribu, chefs de clan qui ont possédé ces territoires. Et Gog et Magog, il en est question chez un historien grec. Le fondateur de l'histoire grecque, c'est l'historien Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui parlait des Magog comme étant, de Gog comme étant les Scythes, S-C-Y-T-H-E, des cavaliers qui peuplaient l'Europe pratiquement entre la muraille de Chine et la Russie. La muraille de Chine est appelée par endroit dans la littérature le rempart de Gog et Magog. Et ces combats, pour beaucoup, voient dans le prince de Roche, de Méchec et de Toubal des noms connus comme Roche. C'est la Russie, Rochia. Méchec, ça serait Moscou. Toubal, Tobolsk. Et là, c'est pour ça que certains voient dans les envahisseurs du Nord, ça serait la Russie qui viendrait attaquer Israël avec des peuplades qui viendraient des pays de l'Est, peut-être de Chine. Il y aurait près de 200 000 lions d'hommes qui pourraient attaquer pour arriver finalement à la bataille d'Armageddon. Mais on en reparlera dans d'autres passages de la Bible. C'était juste quelque chose que je voulais vous donner D'autant que ce soir, j'ai avec moi un morceau de muraille de Chine. Authentique. J'ai ma sœur qui est allée en Chine au mois d'octobre, donc il n'y a pas de danger, j'espère. Et tous les autres touristes là-bas, peut-être que Zoé nous ramènera de la muraille de Chine. Ils prennent tous un petit caillou avec un peu de pierre. Heureusement, c'est grand. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, lorsque nous parcourons à la vitesse grand V, hein, de cette façon, nous survolons rapidement, trop rapidement, ces textes inspirés par ton Esprit Saint. Seigneur, nous sentons que nous avons envie de reprendre notre temps et de les lire par nous-mêmes, tranquillement, Seigneur. Et je te prie de nous aider à le faire, Seigneur. Peut-être pas tout faire, mais choisir un passage que tu mets sur notre cœur. Seigneur, montre-nous que là aussi nous pouvons te demander conseil, que tu peux nous guider vers un passage qui va nous faire du bien, qui va nous enseigner des vérités dont nous avons besoin en ce moment, dans notre vie, chacun peut-être un passage différent. Mais Seigneur, donne-nous de connaître davantage ta parole, de la mettre en pratique et de la comprendre. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous aide à nous y retrouver. Merci aussi de ce que, lorsque nous lisons l'ensemble de la Bible, c'est-à-dire nous pouvons faire des recoupements qui nous permettent de nous égarer dans des choses un peu sans fondement ou ridicules ou sans vérité, Seigneur. Seigneur, nous voyons toujours ce principe de ton amour. Tu veux aussi que nous soyons saints, Seigneur, pour pouvoir nous utiliser. Et Seigneur, si ta parole est claire, que si nous ne sommes pas saints, Seigneur, des fois tu dois utiliser le châtiment, tu dois nous reprendre jusqu'à ce que nous nous repentions, Seigneur. Donne-nous un cœur prompt à se repentir, à venir à toi, te demander pardon. Seigneur, et merci pour les merveilleuses promesses que ta parole nous confie, Seigneur. Aide-nous à les connaître et à savoir en parler, à savoir les partager avec intégrité et vérité, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.